Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sal et je vous accueille à cette émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix des Pays-Bas et de ce fait, le premier balado depuis les vacances, le retour des vacances. Pour parler de ce Grand Prix des Pays-Bas qui, d'ailleurs au moment où on enregistre, vient tout juste de se terminer, j'accueille avec moi Jean-Sébastien Barbeau. Salut Jean-Sébastien.
Salut Abdou. En effet, les entrevues ont lieu en ce moment même, donc c'est une réaction assez à chaud, là, plus que d'habitude.
Exactement, parce que il faut qu'on vous explique, il est 11h40, le Grand Prix vient de se terminer parce qu'il y a eu un drapeau rouge. Donc, on vous expliquera après pour ce qui s'est passé.
Mais rien de grave. Hein?
Mais rien de grave, là. C'était juste un accident, mais sans pilote blessé et tout ça.
Gunther Steiner s'est sans doute compte parce qu'il aurait fallu qu'il utilise un parapluie.
Eh oui.
Pour ceux qui connaissent la référence.
Et je ne dirai pas le mot qu'il a dit après ça parce que je vais mettre le terme explicite. Alors... Max Verstappen a gagné
son 9e Grand Prix de suite.
Et oui, c'est un record. Il égale la marque établie par Sébastien Vettel en 2013. Et en plus de ça, il peut battre le record dès la semaine prochaine à Monza. C'est à suivre. Fernando Alonso revient sur le podium avec une 2e place. Sergio Perez franchit la ligne en 3e place, mais finit 4e puisqu'il a obtenu une pénalité de 5 secondes pour vitesse excessive dans la ligne des puits. Pierre Gasly termine 4e, a franchi la ligne 4e, mais hérite de la 3e place. Donc, c'est son premier podium avec Alpine. Carlos Sainz, 5e. Lewis Hamilton, 6e. Lando Norris, 7e. Alex Albon marque des points pour Williams.
4 gros points.
Oscar Piastri est 9e et Esteban Ocon complète le top 10 avec 7 10e place, donc un point pour Alpine. On a perdu Zhou Guanyu, Charles Leclerc et Logan Sargeant. George Russell, il dit qu'il est out, mais je crois qu'il est classé de toute manière.
Il est revenu en piste. C'est okay. Une crevaison.
Ah, OK. Donc, c'était
une crevaison. Donc, il finit dernier, mais juste pour donner peut-être le classement. Après, hein, Stroll 11e, Hülkenberg 12, Tsunoda 13, Liam Lawson a son premier Grand Prix 14, Magnussen 15, Bottas 16 et Russell 17. On a vu en Grand Prix Russell qui dit « I'm out », mais c'était juste une crevaison, on l'a renvoyé en piste.
Je vois que Lawson, en fait, a fini 13e dans le classement.
Il a dépassé Tsunoda?
Ouais, Tsunoda a chuté au classement, je crois, en fin de course. Donc, il finit 16e. Mais...
16e.
Donc, donc Lawson, pour son premier Grand Prix en Formule 1, finit donc devant son coéquipier. Mais on en reparlera. On en reparlera parce que quand même, il y a quelque chose à dire sur le Néo-Zélandais. Mais ça a été un Grand Prix chaotique. Jean-Sébastien, il ne faut pas se le cacher. Le début et la fin ont été chaotiques.
Oui. Disons-le, le principal de l'action s'est déroulé entre le premier jusqu'au 16e tour, qui est l'accident de Logan Sargeant qui a creusé une voiture de sécurité. Puis après, entre le 16e et le 64e tour, quand la pluie a recommencé au 61e, il s'est absolument rien passé. Mais il s'est vraiment rien passé. Donc, je pense que l'essentiel du balado sera de parler de la course sprint entre le premier et le 16e et de la seconde course sprint qui s'est déroulée à partir du 61e, sachant qu'il y a eu un drapeau rouge causé par Guan Yu Zhou qui a eu un accident au virage numéro 1, un solide accident par de ça, du vrai aquaplaning. La course a repris après une pause de 40 minutes à partir du 60e tour et disons qu'il n'y a pas eu beaucoup d'action. Hein. On s'en est parlé pendant la pause, Abdou, ouais. Ça aurait pu ne pas reprendre, que ça aurait été très bien.
Ouais.
Disons ça comme ça.
Exact. En fait.
Pour l'amour de cette tour, est-ce que ça valait vraiment la peine?
Ouais. Ouais, mais c'est ça. C'est quelque chose aussi que j'avais mis sur Twitter. Je pense que. Ils auraient dû mettre fin à cette course directement. Mais au moins. ils ont eu le temps de rouler dans la, peut-être dans la période où il y a eu de la, où la pluie s'est arrêtée, parce que je pense qu'ils annonçaient tout de suite après
d'autres pluies
encore.
Mais est-ce que ça valait vraiment la peine d'attendre 40 minutes pour 5 tours?
Ben,
c'est la question.
Est-ce que je me, parce que on peut, parce qu'on, comme tu l'as dit, on avait atteint les 75% de, ouais, du Grand Prix. On peut attribuer,
on avait atteint 90% même.
Oui, oui. Donc on pouvait attribuer les points, ouais, les points complets. Mais bon, je pense que c'est juste l'aspect de donner un peu plus de spectacle, mais bon.
Parlons du Grand Prix de façon générale alors, hein, parce que cet aspect-là est peut-être plus ennuyant. Je pense qu'il faut passer au cœur du Grand Prix dans ce cas-là.
Ouais.
Hey, pour une fois, on va changer. Veux-tu me donner ton pilote du jour, ta contre-performance et ta mention spéciale? Pour une fois, c'est toi qui te donne en premier.
Écoute, tu me prends on the spot parce que ben, moi, je vais donner à Pierre Gasly.
Ouais,
parce que vraiment, ça a été une très bonne course de sa part. Malgré une pénalité de 5 secondes pour vitesse excessive dans la ligne d'appui, tu veux savoir de combien il a dépassé?
Allez, je vais dire 0,1 km/h.
Exactement.
Oh man, je suis sûr que Perez, ça doit être quelque chose de similaire à ça.
Ah, possible. J'ai hâte de voir.
Ils sont pas indulgents, les FIA. Hein?
Ah non, non, non. Même pour 0,001, là, ils vont te coller une pénalité.
Ouais, ouais. C'est quand même beau.
Eh oui. Donc.
0,1 km/h. Ça fait mal, hein.
Eh oui, attends. Non, pour Perez, je viens de voir le document, c'est 0,8.
Oh oui, quand même. Ah, oh, c'est beaucoup, là.
Ouais, là, c'est.
On t'entend, c'est beaucoup, là. C'est même pas 1 km/h. Ouais. Ah, non, oui, quand même. Ah, 0,1, ouais, on n'y est pas. Donc, ouais, Gasly, pilote du jour pour toi, hein.
Ouais, Gasly, quand même, a été très bon. Quand même.
Il est parti 12e.
Ça a été une qualification un peu décevante dans les circonstances. Mais je pense que Gasly a vraiment montré de très bons signes aussi. Surtout le dépassement sur Carlos Sainz qui a finalement fait la différence aussi, même si ouais, les deux ont eu un certain contentieux depuis quelques Grands Prix, puis qui a commencé à Montréal avec ces histoires de blocage de Sainz,
c'est
et
vrai,
puis à Silverstone aussi. Mais Gasly a vraiment prouvé qu'il est capable de rouler, puis quand même sa saison, même si à l'interne ça ne va pas très bien, j'en ai parlé dans la revue de mi-saison, les pilotes ont quand même une bonne part d'éloges, et je crois qu'aujourd'hui Gasly les mérite amplement, là. Donc,
oui, tout à fait d'accord.
Puis moi, c'est mon pilote du jour.
La contre-performance, il y a du choix, là.
Oh, il y a du choix, et honnêtement, je ne sais même pas par où commencer, à qui donner. C'est pour ça que tu me dis, tu me prends.
Veux-tu que je te donne peut-être des indices? Moi, j'ai dans mes notes, là, au 9e tour, je m'étais écrit une note en disant, est-ce que c'est une course ruinée pour, et là, il y a une liste, Albon, Piastri, Bottas, Stroll est en intermédiaire, Hülkenberg et Sargent, plus Hamilton et Russell, parce que tous ces pilotes-là, à l'exception de Stroll au 9e tour, étaient en tendre, alors qu'il pleuvait comme pas possible. Ouais. Hamilton et Russell étaient 13 et 14e à 17 secondes de Liam Lawson. À 17 secondes d'un gars qui a roulé une heure sur du sec.
Oui.
Donc, il y avait peut-être une piste à ce moment-là, mais finalement, tous ces pilotes-là se sont relativement bien replacés, à l'exception de Bottas, qui a connu une course un peu de misère, mais bon, la voiture est littéralement une poubelle. Donc, est-ce que la contre-performance du jour est là? Ou il faut aller plutôt voir d'un gars comme Charles Leclerc, mais la voiture avait un problème.
Ouais.
Tant de sa faute.
Je pense pas que c'est la faute à Leclerc là-dessus.
L'arrêt trop long de Ferrari qui n'ont pas préparé les pneus encore.
Ben ça, c'est un classique.
C'est un classique. Est-ce que ça compte pour la contre-performance?
Moi, je donnerais ça à Lance Stroll, même s'il a été victime des erreurs stratégiques de Aston Martin. Même Mercedes aussi, puis je pense que j'en reparlerai.
Hamilton a fini 6e.
Ils se sont repris.
Une bonne partie de la course, c'était terrible, c'est
oui,
vrai.
Oui, parce que vraiment, ça a été le dernier pilote à changer les pneus pour des intermédiaires.
Ouais.
Mais au moins, ils se sont repris. Mais je pense que... Et George Russell aussi, je pense qu'il y avait... Est-ce qu'il y avait vraiment... Il, je pense qu'il disait... Oh, on allait prévoir un podium. Comment ça se fait qu'on a descendu aussi bas?
Oui. Mais est-ce Parce que tu vois, au 16e tour, lors de la reprise, au 22e, les Mercedes sont 13 et 18, Hamilton et Russell. Ouais. Ils sont loin, là.
Ah oui.
Puis on est sur du sec, donc...
Ah oui.
Ouais, c'était difficile. Et à la relance, ils étaient 6 et 8, respectivement, Hamilton et Russell. Donc, ouais, peut-être un de ces deux-là, tu penses?
Moi, je pense que je vais y aller avec... et pas parce que c'est par défaut, mais je pense que Lance Stroll, même s'il finit 11e, ça a été une course très difficile pour lui. Au moins, avec les situations, des arrêts et tout ça, ça va, mais je pense que je vais lui donner un peu ma contre-performance.
OK. Puis ton élément un peu étonnant qui détonne.
Steve Carroll?
Oui, en entrevue à Sky Sports.
Moi, j'ai dû scroller dans Instagram pour voir qu'il était là parce que j'ai pas TSN, donc.
Moi, j'ai abonné à FETV, donc j'ai peut-être un petit peu triché là, mais comprenez ce que je veux dire. Steve Carroll était invité de Red Bull et c'était son premier Grand Prix à vie en famille.
En plus!
Ben déjà, il était en famille, en vacances aux Pays-Bas, mais c'était son premier Grand Prix en personne, donc il découvrait toute l'effervescence. Il était quand même un petit peu mignon à voir Steve Carroll.
Ah ouais, puis en plus, il a choisi le bon Grand Prix pour
Ah assister. Oui, ils ont mis l'ambiance de feu.
Ah oui,
de
oui.
feu.
Et d'ailleurs, pendant que tu me parlais des contre-performances, il y avait quelqu'un qui chantait l'hymne national des Pays-Bas. Donc,
ça fait pas sur le podium, ça? C'est pas la norme?
Non, c'est pas la norme. Donc, il y a quelqu'un qui est venu chanter l'hymne national des Pays-Bas. Puis ensuite, t'as l'hymne autrichien.
Oui.
PS, meilleur hymne national après le Canada.
C'est magnifique, cet hymne-là. Ah, oh, l'hymne italien aussi est quand même chouette.
Oui, oui. Ah oui, oui, l'hymne italien aussi.
L'hymne autrichien, je trouve, c'est vrai qu'il est beau.
Donc, c'est ça. Ça fait le... Donc, performance du jour, Pierre Gasly. Contre-performance, Lance Stroll. Puis, moment cocasse, Steve Carroll. Finalement, avec la Formule 1. Et évidemment, plein de références à The Office.
Bien sûr.
Et prévisible. Et l'hymne national chanté. Ça, c'est quelque chose d'assez rare, mais... assez beau à voir quand même.
Moi, je vais donner ma contre-performance et mon moment cocasse parce que la performance du jour, bien d'accord, Pierre Gasly, amplement mérité. Les deux pilotes élèvent l'équipe par rapport à l'équipe elle-même. Normalement, on s'attend à ce que tout le monde soit sur un pied d'égalité, mais ici, vraiment, les pilotes font la différence parce que l'équipe, ça ne va pas à l'interne, mais c'est une équipe qui performe bien. Est-ce que la direction d'Alpine a commencé à faire des fautes en virant des gens? Parce que cette équipe livrait la marchandise. Excusez-moi pour utiliser un calque là, de l'anglais, mais il y avait des vrais résultats qui sont donnés chez Alpine. Ça paye en ce moment chez Alpine.
Ah oui.
Depuis quelques Grands Prix, on le voit bien.
Ouais,
c'est dommage parce qu'il y avait peut-être la solution, puis ils ont peut-être viré les mauvaises personnes.
Exact. Et tu sais, quand j'avais fait mon run en disant que cette équipe c'est une équipe de corporatif, au moins, les pilotes ne le sont pas. Donc, je pense que Gasly a bien fait. Ocon, un peu plus en retrait aussi. Donc,
ouais, mais c'est un mauvais Grand Prix pour Ocon. C'est un peu la loterie aujourd'hui. Hein?
Ouais.
Franchement, aujourd'hui. Ma contre-performance, moi, par contre, je vais la donner à Logan Sargeant. Par dixième, a connu un départ assez mauvais, a perdu 4 ou 5 places et a fini dans le mur au 16e. Visiblement, il y a quelque chose qui a brisé, mais... ouais, c'était pas au niveau de ce qu'il faisait hier. Il aurait pu avoir un meilleur sort. Je pense qu'il y a une mauvaise stratégie de façon générale. C'est le genre de Grand Prix qu'il faut regarder pour comprendre dans son ensemble, qu'on comprend les résultats, puis à certains moments clés où on se trouve dans les classements. Mais oui, je pense que Logan Sargeant est la contre-performance du jour ici. Je suis un petit peu en dissonance. Le moment cocasse, c'est pas un moment cocasse, c'est un moment positif. Moi, j'ai envie de le donner parce que sinon, j'aurais pas la chance de le dire. Yuki Tsunoda a maturé.
Ouais.
Au 53e tour, lorsqu'il pense avoir un problème avec son aileron avant, il demande à son équipe très poliment, est-ce que vous pouvez vérifier mon aileron avant?
Mm-hmm.
Il l'aurait gueulé normalement.
Oui.
Il ne l'a pas fait. Est-ce que Yuki Tsunoda est en train de se transformer? C'est l'année de maturation pour Yuki Tsunoda. Je pense qu'on assiste à quelque chose. On l'a vu, il s'est amélioré cette année. Il fait des meilleures courses. Il termine souvent, au début de la saison, il terminait 10e ou 11e. Puis c'était des résultats très décents là, par rapport à la voiture qui était de piètre qualité. Mais là, Yuki Tsunoda roulait jusqu'en 5e place.
Mm-hmm. Oui.
4e à un moment donné, peut-être même. Ouais, 5e, naturellement. Ouais. Mais je pense 4e. Bon, les pneus étaient finis au 53e. Il a perdu rapidement des positions. Mais il est dans le rythme. Il mérite beaucoup mieux que la AlphaTauri et je pense que dans un futur proche, il va finir par quitter AlphaTauri pour aller dans une meilleure équipe. Il mérite mieux que ça.
Honda, genre Aston Martin.
Peut-être. Par contre, il va y avoir de la compétition parce que il n'y a pas juste Bottas qui va vouloir. Il n'y a pas juste Tsunoda qui va vouloir essayer d'avoir ce volant-là. Je pense qu'il a foncièrement du temps. Je pense qu'il mature bien. Il s'en vient bon, Tsunoda. Je pense qu'il fallait juste lui donner du temps, il fallait l'encadrer, il fallait le coacher. Je pense qu'il a atteint un niveau là. Il n'a pas gueulé à la radio. C'est rare, ça. Ouais. Je pense qu'il se passe quelque chose avec lui.
Exact. Ouais, je pense que. Et en plus, côté conduite aussi, ça a vraiment, vraiment été une bonne performance de sa part. Alors.
Ouais.
Je l'ai dit à la blague aussi, c'est une course impressionnante pour Tsunoda, uniquement pour finir 10e et plus bas. Là.
Oui, 16e ne reflète pas la performance de Tsunoda aujourd'hui, Russell non plus.
Oui, exact. Et d'ailleurs, Tsunoda, ben, lui, s'était pris une pénalité de 5 secondes aussi pour avoir causé une collusion. Donc est-ce que c'est aussi pour ça qu'il a chuté en 16e place parce qu'il n'avait pas servi la pénalité lors de son arrêt au puits, donc est-ce que ça a été appliqué après? Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on aille vérifier après, mais
ouais.
Sinon ben oui, je suis d'accord, Tsunoda a fait une bonne course en général. Parlons de Max.
arrêt particulier, qu'il s'est arrêté au deuxième tour, donc il s'est pris plusieurs secondes de retard. Perez avait 15 secondes d'avance sur lui parce que Perez est arrêté au premier tour. Stratégie assez maligne. En même temps aussi, c'est normal, Verstappen ne voulait pas s'arrêter parce que sinon, il aurait été obligé de laisser passer toutes les autres voitures derrière lui à l'entrée des puits, ce qui est normal.
Ouais.
Donc, il voulait attendre un tour pour se faire un trou d'air, mais avait quand même 15 secondes de retard, mais roulait jusqu'à un certain moment 4,2 secondes plus vite que Perez au 7e tour.
Oui.
Au tour.
Oui, oui.
Il mettait une claque magistrale à Perez.
Oh non,
c'est 4 secondes autour.
Malade.
C'était malade. Il y a eu un undercut qui a été choisi par l'équipe et non par Perez qui l'a visiblement agacé, pour pas dire davantage, plus loin dans la course.
Ouais.
Ça a agacé beaucoup de gens, visiblement. Parce que sur Sky Sports, étant abonné à F1 TV, on l'a noté et ça a été très, très mal reçu, visiblement. Et même l'équipe à la télévision s'est un peu étonnée du choix stratégique parce que c'était Perez qui était premier et non Verstappen à ce moment-là. Donc, ça a été mal reçu et l'undercut a payé parce que Verstappen est revenu en avant. Et après, ben, plus rien hein, pour Verstappen. C'était facile.
Ben, en même temps, moi, je dirais que Perez est quand même parti de la 7e place. Donc,
non, c'est sûr.
Donc, au moins, oui, je comprends, Perez allait être. Et était frustré parce qu'il voulait vraiment revenir en tête, mais...
Ah, je ne sais pas si c'est une frustration, c'est plus de l'étonnement ou un agacement. Hein. Mais ouais, il menait, donc ouais. Légitimement, il avait le droit de pouvoir... On aurait dû... Enfin, la norme veut qu'on consulte le meneur pour savoir qu'est-ce que tu veux faire comme stratégie.
Ouais.
Mais là, c'est une direction d'équipe, c'est Red Bull. Hein. De toute façon, les dés sont pipés, on sait qui va gagner le championnat à ce stade-ci. Hein. Si vous pensez que Perez a encore des chances... Hein.
Ah ouais. Mais et en plus, de toute façon, il aurait été dépassé par Verstappen de toutes les manières alors.
Oui, de toutes les manières aussi, mais c'est juste le respect de l'ordre.
Ouais.
L'undercut revient au premier et pas celui qui est deuxième dans la même équipe.
Exactement, ouais. Je comprends aussi l'agacement de Perez parce que c'est normalement, effectivement... et en plus, la piste s'asséchait, donc... à ce moment-là, ouais. La piste s'asséchait. Je crois que ça aurait été le bon moment, mais... Plus tard, on apprendra que sa course a viré au cauchemar. Et vraiment au cauchemar, parce que avant le drapeau rouge, On a vu que son arrêt était lent, l'équipe n'était pas prête. Et après, on découvre qu'il a tapé le mur.
En entrant dans les puits.
Donc, le drapeau rouge est arrivé à un très bon moment pour lui, puisque Red Bull a pu tout simplement
faire la réparation.
Les réparations nécessaires. Mais d'ailleurs, je me demande à quel moment Checo a fait sa vitesse excessive. Est-ce que c'était au moment?
Ça doit être à ce moment-là, parce que. Oh, c'est peut-être le 101e quand il a fait son intermédiaire puis son arrêt dure 10,1. C'est peut-être là.
Donc, le temps de la pénalité à 16h30. Donc,
61e tour.
Donc, au 61e tour.
Ouais, à son arrêt qui a duré 10,1 secondes pour mettre l'intermédiaire.
Ça fait encore plus mal.
Ouais, parce que quand il s'est arrêté deux tours plus tard, il devait déjà être 10h33, 10h34. Donc, il faut que ça soit à ce moment-là.
Ouais, exact. Donc, c'est
un peu l'Est au Québec, évidemment. Là, mais...
Ouais. Donc, non, ça fait mal pour Checo quand même d'avoir fait ça. Et puis, il perd un podium au départ de Pierre Gasly. Donc, ça va pas très bien. Mais pour vrai, il faut qu'on revienne sur Max parce que 9 victoires consécutives...
Combien ça va s'arrêter?
C'est ça. Là, la question, c'est est-ce qu'il va pouvoir continuer à Monza? Et ensuite...
Les chances sont fortes.
Et ouais, en plus. Et jusqu'où il va s'arrêter? Et aussi, on se demandait, le record de Vettel, jusqu'à quel point quelqu'un allait le battre?
Ben, ça a pris 10 ans pour l'atteindre, visiblement, le record. Il va le dépasser la semaine prochaine, Vettel. Verstappen.
Ouais.
C'est sûr qu'il va aller le chercher. Je vois pas comment. Il faut qu'il y ait une panne de voiture, il faut qu'il y ait un accident, il faut qu'il y ait une malchance. C'est pas contre lui que ça va arriver. Ça va être contre d'autres situations. Et là, je souris parce qu'Abdou, en même temps, je sais, regarde Liverpool sans doute jouer au soccer et vient en train de se prendre une raclée. C'est ça, tu peux me donner une mise à jour juste pour le plaisir, juste pour qu'on...
Newcastle vient de marquer, c'est 1-0.
Il reste combien de temps?
À la 25e minute.
Oh, il y a encore du temps.
Oui, il y a encore du temps. Mais c'est pour ça que tu m'as entendu sacré.
Oui, c'est ça. Que ça a été coupé au montage, chers auditeurs. Vous ne savez pas, mais il y a eu un petit montage normalement qui était fait. Là.
Ouais.
Parce que c'est ça. Liverpool, ça ne va pas bien. Ouais. Donc, je disais, Verstappen, c'est sûr qu'il va le dépasser. Oui. Mais à combien ça va s'arrêter? 11, 12, 13, 14, 15?
Ouais.
Parce qu'il va tenter de tout les gagner jusqu'à la fin de la saison.
Ah oui, c'est possible. Et en plus, tu vois, à un moment donné, je me disais, qui va arrêter Verstappen? La réponse est pas mal. La fiabilité imprévue.
La fiabilité de la voiture ou lui-même parce qu'il va faire une faute.
Oui.
Mais c'est pas parti pour le voir faire une faute.
Mais il en a fait quelques-unes. Je pense, je me souviens même à Montréal, à un moment donné, il est roulé un peu trop large dans le vibreur, puis il se moquait. Ah, j'ai roulé un peu trop large sur le vibreur. Un peu à la même manière que George Russell a tapé le mur en début de course à Montréal. Donc, ça, il peut être.
Ouais, mais si c'est ça, sa plus grosse faute.
Mais en même temps, je dis pas que ça. Je pense pas qu'il va faire d'erreur.
Non.
Mais il n'est pas exempt. Comme on l'a vu à Montréal.
Ouais.
Je ne pense pas que ça va arriver.
Là où il peut se faire battre, et j'ai un petit peu cru, est-ce que Alonso avait des chances de pouvoir le dépasser dans les derniers tours. Il a essayé de s'accrocher, mais ça manquait de vitesse. Il était proche. Pendant deux tours, il était à moins d'une seconde, mais il n'a jamais pu raccrocher totalement pour aller le dépasser. Mais c'est peut-être juste là les seules chances où une autre voiture, un autre pilote a pu essayer de casser cette série de victoires consécutives. Ça va être très, très difficile. Moi, je ne vois pas comment on peut arrêter Max Verstappen, honnêtement. Là.
Ouais. Ouais, exactement. Je ne pense pas. Puis même à Monza, avec la voiture qui est...
Ça sera pas à Monza qu'on va l'arrêter. Singapour, peut-être.
Non. Singapour, peut-être. Là, il y a un peu plus de chance. Encore là.
Vegas, c'est l'inconnu total.
Oui, Vegas, c'est une
inconnue. Parce que si on se rend à Vegas, ça veut dire que, admettons, il y gagne tout. Là. Donc, Monza, ça fait 10. Singapour, ça fait 11. Japon, ça fait 12. Qatar, ça fait 13. USA, 14. Mexico, 15. Brésil, 16. Hey, attends, là. Ça veut dire qu'il sera à 16 victoires consécutives là, si on veut l'arrêter, Max Verstappen.
Ah oui, non. Si ça continue comme ça.
Parce que, regardons le calendrier, là. Monza, ça semble évident. Singapour, ça peut être difficile. Japon, s'il pleut, on ne sait jamais, hein, 24 septembre, il peut pleuvoir. Los Isles, aucune chance. Austin.
Il va être capable de le faire.
Il va être capable. Mexico, c'est le circuit de Red Bull.
Oui.
Brésil, peut-être. Une boîte à surprise, Brésil.
Oh oui. Ouais, Brésil, ouais. On a vu l'année dernière, Mercedes avait gagné.
Oh, oh oui, c'est ça. Vegas?
Inconnu.
C'est un inconnu. Donc, il y a 3 grands prix.
Mais
parce que si c'est clear Singapour, après, on s'en va sur du 14 victoires consécutives minimum.
Ouais. Donc, non, je pense que Verstappen va être vraiment, mais vraiment.
Il repousse tous les records.
Il repousse tous les records, en effet. Donc, non, je pense qu'il va. Verstappen va être intraitable. Et au pire, si jamais ça ne va pas bien, moi, je pense qu'il va finir sur. Il risque de finir sur le podium.
Oui, c'est sûr.
Parce que je pense qu'il n'a pas encore terminé troisième.
Non, il a terminé soit premier ou deuxième. Et deuxième deux fois dans les trois premiers Grands Prix.
Et puis, il pourrait, et même à la limite, être officiellement sacré d'ici le Grand Prix du Japon dans un mois. Donc,
ce qui devrait être le cas, là. Normalement, là, on est parti sur ce rythme-là. Ça m'étonnerait que ça arrive à Lausanne.
Exact. Donc, ouais. Soit Lausanne ou. Ben, maximum, je dirais. Lausanne, parce que je ne pense pas que ça va s'attendre. On va parler de Fernando Alonso.
En super course, hein?
Ah, super course!
Son dépassement sur Russell au virage numéro 3 au premier tour, c'était joli. Russell va haut et large. Alonso, fin renard, coupe le virage pour sauver du temps puis pouvoir avoir une meilleure réaccélération et arrive à le dépasser. Ça, franchement, là, c'est peut-être le dépassement du jour.
Oui, puis en plus, son départ.
C'est pas tant oser ou risquer, c'est malin. C'est Fernando Alonso qui est malin.
Ah oui. Puis aussi, son départ, quand il a gagné 2 places pour se retrouver troisième aussi.
Ouais.
Ça aussi, c'était vraiment du Fernando Alonso tout craché. Il est très bon dans les Il est très, très bon dans les départs. Il est super intelligent en termes de racecraft.
Son quotient intellectuel de course est très, très élevé.
Oui. Et en plus, à un certain moment, avant que la pluie n'arrive, à un moment donné, Alonso était à quoi 5 dixièmes de Checo, mais a dû se rétracter. Mais je pense qu'il y avait. S'il pouvait, il aurait eu vraiment le potentiel de le dépasser. Mais je pense qu'évidemment, je pense probablement qu'il sentait que c'était pas assez. Donc, il a décidé de se rétracter, sauver un peu de ERS, de pneus, pour pouvoir attaquer à la fin.
Un très beau rythme aussi à partir du 49e après son arrêt de 8,9 secondes où est-ce qu'il a perdu sa troisième place.
Ouais.
Il est tombé cinquième derrière Sainz et Tsunoda. En 3 tours, il a retrouvé sa troisième place. Le rythme de la voiture était très, très bon.
Oui, vraiment, la Aston. Ben, de son côté, la voiture a fonctionné à merveille.
Ouais, parce que Stroll, on l'a pas vu. Hein. Stroll, c'était difficile. C'était très difficile.
Ouais, ça a été super difficile pour Stroll, et surtout en matière de stratégie aussi.
Parce que ça fait partie des pilotes qui se sont pas arrêtés, puis ils avaient plus d'une minute de retard au 9e tour.
Ouais, exact. Donc, ça n'a pas très bien été pour le pilote québécois à l'inverse. Est-ce que ça veut dire qu'il va aller jouer au tennis? Non. J'y rentrerai pas dans cette rumeur farfelue.
Non, je pense qu'il aime beaucoup Oshiaga.
Ouais, aussi. Oshiaga est élite, apparemment. Beaucoup plus élite que le Grand Prix des Pays-Bas.
Oui, beaucoup moins difficile aussi que le tennis.
Et oui, effectivement. Et parlant de course, course lit, Alex Albon, on va en parler d'Alex Albon. Parti quatrième, Ça a été un début de course quand même difficile. Il a été un de ceux qui est resté quand même sous la pluie en pneus secs.
Ça a arrêté autour du 42e, 43e tour. J'ai pas le tour exact.
Ouais.
Parce qu'à un moment donné, au 40e, j'ai noté Albon est toujours en temps, donc après 40 tours. Puis à un moment donné, au 44e, j'ai vu qu'il avait arrêté. Donc, j'ai pas noté son arrêt. Là, j'ai peut-être, je devais être dans mes notes en train d'écrire quelque chose. Et oui, Albon a très bien roulé. C'est presque dommage qu'il termine. Je retourne voir mes notes. Désolé pour le petit bruit. Il est où Albon? 8e.
Oui.
C'est un peu une contre-performance en son cas, parce qu'il part 4e, mais. Ouais, la partie sec du Grand Prix, le fait que ce soit pas arrêté, lui a peut-être coûté des positions finalement. Et on regarde certains autres comme justement Alonso qui était devant ou Sainz, mais c'est des gens qui ont de bien meilleures voitures que lui, mais aurait pu sans doute finir peut-être un peu plus haut. Donc il y a un peu de la faute peut-être au mur de Williams pour choisir le bon moment pour s'arrêter, mais Albon est clairement en très bonne position pour se trouver un meilleur volant.
Oui, oui.
Il mérite beaucoup mieux que la Williams. La Williams est bonne, là. On va se comprendre parce que même Sargent, qui est franchement un des moins bons pilotes du plateau, se qualifie quand même 10e, là. Premier américain d'ailleurs à partir dans le top 10 en 30 ans en Formule 1. Mais oui, la Williams est très performante, mais oui, ça donne 4 points. Ça va aider l'équipe pour les constructeurs parce que s'ils vont se rapprocher drôlement de Alpha Tauri. Mais oui. Albon, je pense, aurait pu mieux mériter aujourd'hui quand même, mais solide, solide performance. S'il y avait une deuxième performance du jour, c'est Alex Albon qui l'avait.
Oui, oui. Et d'ailleurs, je pense qu'il était parmi les prétendants, en fait.
Non, il était parmi les prétendants. Il méritait bien. Il avait un bon rythme. C'est très bien adapté sous la pluie. Je pensais qu'il allait faire une course catastrophique parce que c'était pas arrêté, mais finalement, a pu profiter de la voiture de sécurité pour recoller et redépasser des pilotes qui n'étaient pas nécessairement en temps parce qu'on a vu que le C2, là, le médium était très mauvais. C'est une catastrophe, ce pneu-là, aujourd'hui.
Ah oui, oui, le médium, je m'attendais pas.
Le médium n'était pas bon. On l'a vu avec Charles Leclerc, il n'était pas bon.
Ouais, mais en même temps, Leclerc avait des problèmes de plancher aussi.
Non,
donc,
non, c'est sûr, mais quand on passe proche de se faire dépasser par Liam Lawson.
Ouais. Ça. Eh ben tiens, justement, parlant de Lawson, pour une première impression, il a quand même bien fait. Hein?
Il a quand même bien fait. Il y a une pénalité, je ne me trompe pas, de
10 secondes.
Impeding, c'est ça?
Oui, impeding, mais est-ce que c'était à l'endroit de Magnussen?
Aucune idée, on ne l'a jamais vu.
C'est ça, on ne l'a pas vu. En fait,
on l'a pas vu. Moi, c'était une de mes questions que je vais te poser. C'était pourquoi il y a eu une pénalité. Je ne sais pas pourquoi. Je comprends le impeding, là. Je comprends pas avoir bloqué quelqu'un, mais on n'a jamais su qui, puis on n'a jamais su quand et où, puis on n'a jamais vu la reprise.
Ouais, on n'a pas vu la reprise, ça c'est sûr. Moi, je pense que c'était à l'endroit de Magnussen. Je vais aller vérifier, mais effectivement, oui, c'était à l'endroit de Kevin Magnussen en début de course.
Au début de la course?
Oui, pendant l'arrêt au puits.
OK. Ouais. Non, l'arrêt au puits. Oh.
Ouais,
donc c'est bien mérité le 10 secondes dans ce cas-là.
Ouais, parce que.
Ah oui, c'est une erreur d'inexpérience, ouais. La sortie des puits pour un pilote qui fait de la Super Formula ou de la F2. Là. C'est pas quelque chose qui est si habituel. C'est sûr qu'ils font des arrêts de temps en temps, mais ouais. c'est pas une norme d'être aussi rapprochés les uns des autres. Donc, ouais, c'est un manque d'expérience, mais bon rythme.
Oui.
Loin d'être vilain, je pense. Meilleur que Nick DeVries.
Ouais, oui, oui, oui.
Est-il meilleur que Daniel Ricciardo?
Ouais, ouais. Parce que, oui, évidemment, je veux souhaiter un prompt rétablissement à Daniel Ricciardo.
Ouais.
S'il y a un
certain switch, là, mettons que Stroll s'en va et que Tsunoda arrive à prendre ce deuxième volant chez Aston Martin, ouais, Liam Lawson, Daniel Ricciardo, c'est pas un vilain duo non plus. Hein.
Non, c'est ça. Puis je pense que, à moins que... Bon, moi, je pense que... Moi, ça me ferait mal de ne pas voir Lawson en Formule 1 dès l'année prochaine. C'est peut-être ça aussi parce que je ne sais pas si Ricardo va... Je pense que AlphaTauri va garder Ricardo pour 2024 avec Tsunoda. Mais moi, ça me ferait mal de ne pas voir Lawson en Formule 1 l'année prochaine parce que Je crois qu'il est presque prêt pour un volant Formule 1. Ben, ça, c'est ce que je disais aussi.
Ben, il fait de la Super Formule 1, hein, donc on est beaucoup plus proche de la Formule 1 que de la Formule 2.
Puis il se bat pour le titre en plus. Donc, à part l'accident Motegi, qui était terrible, mais Lawson fait très bien. Puis aujourd'hui, quand même si c'est un Charles Leclerc affaibli, il a été capable de se battre aussi. Ouais. Il était devant une des voitures qui est dans le top 5, à savoir l'Aston Martin aussi à un certain moment, même si Stroll, c'était pas fameux. Donc, je crois qu'il y a une certaine base aussi. Puis en plus, on s'entend que Lawson a eu quoi? Une heure de pratique?
Samedi matin au sec. Alors que la qualif et la course, c'était pas tout à fait ça.
C'est ça. Donc, c'est une expérience apprise sur le tas.
Pour Lawson, ce qui est difficile, c'est que il y a 20 places et les pilotes restent de plus en plus longtemps.
Exactement. Donc,
le goulot d'étranglement se fait pour la transition entre le niveau inférieur Formule 2/Super Formula et la Formule 1.
Et même IndyCar, si je peux ajouter aussi. Mais...
Et même IndyCar. Donc, il manque de place.
Exactement. Donc,
et les pilotes sont meilleurs.
Et les pilotes sont meilleurs, effectivement.
Un Tarso Marquez n'aurait jamais atteint la Formule 1.
Aujourd'hui,
aucune chance.
Ah, ouais, Tarso Marquez, il y a même plusieurs autres dans son pool aussi.
Pedro Diniz n'aurait jamais atteint la Formule 1. Ouais. Pedro de la Rosa n'aurait jamais atteint la Formule 1.
Ah, de la Rosa, oui, moi je pense pas. Il était bon. Il était bon dans.
Okay. Non, peut-être, oui. Ouais. Ouais. J'essaie de voir vite, là, dans les pilotes un peu rétro, 90-2000. Jos Verstappen aurait-il atteint la Formule 1?
Oui.
Il aurait resté moins longtemps.
Oui. Alex Jung n'aurait jamais eu un volant Formule 1.
Non, mais là, franchement.
Oui. Alex Jung.
Franchement.
Mais au moins, je pense que les chances de voir Liam Lawson à Monza la semaine prochaine sont assez fortes.
De toute façon, on pense que Ricardo va revenir pour Singapour, donc il faut mettre quelqu'un dans la voiture. Liam Lawson a eu... Aujourd'hui, là, franchement, là,
oui.
C'est un peu la faute. C'est pas vraiment la faute des pilotes.
Non, c'est ça.
Il mérite tout à fait d'avoir une deuxième chance.
Oui.
Enfin, une deuxième chance. Il va retourner dans la voiture la semaine prochaine. Je peux pas croire.
Ça c'est clair. Oui. C'est clair. Je pense même, est-ce qu'on va avoir Ricardo pour le Japon aussi? Parce que Singapour, c'est quand même assez technique comme circuit, puis physique en plus. Donc,
c'est vrai, c'est physique.
Donc, je pense que Japon, ce serait maximum le moment de retour de Ricardo. On a parlé de Mercedes aussi.
Ouf, c'était compliqué, ça.
Début de course hyper compliqué. Fin de course aussi compliqué du côté de George Russell avec le contact avec Lando Norris qui a entraîné la crevaison. Mais en début de course... Les stratégistes se sont un peu fourvoyés là-dessus, là. Surtout avec Hamilton.
C'est pas le genre de Mercedes. Ça paraît qu'il se passe quelque chose.
Ouais.
C'était difficile, se sont mal arrêtés. On a entendu Hamilton se plaindre de la mauvaise stratégie. Ils ont pu profiter du temps sec parce qu'à la reprise au 22e, Hamilton, comme j'ai mentionné, et Russell, ils étaient respectivement 13 et 18. Lorsque la course a repris au 67e, ils étaient rendus 6 et 8.
Oui.
Respectivement. Donc, ça avait marché sur temps. Ils ont pu remonter comme il faut. Hamilton n'a pas pu dépasser Sainz. Il a essayé, mais c'était très difficile. Ça prouve que la Ferrari sur humide est quand même assez bonne quand même. Mais Russell qui a connu une crevaison causée par un incident avec Lando Norris, visiblement, a perdu tout espoir de marquer des points, visiblement. Mais oui, c'était une course assez difficile, assez complexe, comme tu l'as résumé, une mauvaise stratégie. Pour moi, j'ai pas vraiment d'autres notes à relever. Pourquoi ils ont décidé de rester sur du sec pendant la pluie?
Ouais.
Je la comprends pas. Je pensais que tout le monde aurait fait l'arrêt. Il pleuvait fort.
Et tu vois, il y a Lewis Hamilton. Évidemment, il y a une vidéo de Sky Sports F1 sur mon fil Twitter, mais parce que je vis au Canada, je peux pas le voir. Mais Hamilton dit que Mercedes aurait pu avoir le rythme pour challenger Max Verstappen aujourd'hui s'ils avaient fait les bonnes décisions. Pris les bonnes décisions.
C'est facile à dire, ça.
C'est facile à dire, effectivement. Puis Hamilton est parti 13e. Donc.
Oui. Une qualification en dents de scie déjà hier, là, quand il s'est fait sortir de Q2 sous la pluie. Mais non, franchement, dire. Ben oui, mais n'importe qui peut dire ça après. Wow, ouais. Franchement.
Ouais, non, je ne pense pas que. Ben, Hamilton, en fin de course, OK, ça s'est bien passé. Il
pouvait même pas dépasser Sainz.
C'est ça. Donc, imagine vouloir challenger un Max Verstappen qui est.
Ah non, ça, je crois pas une seconde, c'est pas vrai, ça.
Qui parvient à mettre 4 secondes sur un tour à son propre coéquipier. Donc.
Mais la critique de George Russell en plein milieu du Grand Prix, comme tu l'as relevé au début du balado, hey, je croyais qu'on se battait pour un podium.
Ouais. Ouh!
Ça, c'est une pique envoyée en plein Grand Prix qui fait mal, ça.
Oui.
Psychologiquement, ouais. Ça fait mal, se faire dire ça.
Eh oui. Puis c'est pas une. Puis Mercedes, c'est quand même une saison en mi-figue, mi-raisin en même temps. Donc on sait pas. Autant, oui, ça va bien, autant ça va mal. Donc.
Autant la voiture va mieux cette année, autant la stratégie est moins bonne cette année.
Exact.
On semble être moins confiant sur les stratégies.
Ouais. Donc, non, c'est ça. Aujourd'hui, Mercedes a été vraiment ça a été une course vraiment en dents de scie, mais Hamilton a limité les dégâts, heureusement pour l'écurie. Donc,
heureusement.
Ouais. Puis, côté Ferrari, malheureusement, j'ai pas le fameux clip It's the History of the Ferrari, mais ça ressemble un peu à ça, là. Et là-dessus, je vais donner un peu le bénéfice du doute à Ferrari parce que Frédéric Vasseur a dit que c'est Leclerc qui a fait le call un peu tardif de venir dans les puits.
Soit aujourd'hui, là, il n'y a pas vraiment de faute à dire à Ferrari sur les problèmes de pneus parce que qui a eu des problèmes de pneus aujourd'hui? Alonso a eu des problèmes. Perez a eu des problèmes. Mais Perez, ça a pris du temps pour mettre l'intermédiaire. Alonso, je pense qu'on a mis les pneus assez tard. Il y a un ou deux autres pilotes aussi qu'on a vu là, pendant le Grand Prix, là, où mettre les pneus, c'était difficile parce qu'il y a eu des close calls, comme on dit, là, des appels faits à vraiment la dernière seconde. Donc, pour une fois, ouais, Ferrari, c'est pas, je pense pas que c'est tant de leur faute.
Non.
La ligne des puits est courte, le tour se fait rapidement, donc on n'a pas vraiment le temps de réagir.
Ouais. Et d'ailleurs,
c'est pas facile de circuler. On a vu à un moment donné un mécanicien de Ferrari engendrer le cric au lieu de faire le tour. Mm-hmm. Puis ça, il aurait pu s'enfarger. Là. Puis tu tiens un pneu qui fait 20 kilos. Là.
Ah oui.
C'est difficile.
Donc, ouais, aujourd'hui, je pense qu'on va. Au dire de Frédéric Vasseur. Concernant l'arrêt au puits du premier tour, je pense qu'on va absoudre Ferrari dans le détail, mais
Sainz commence 6, finit 5.
Ouais, il y avait pas tant de rythme, c'est bien, mais c'était une course un peu anonyme, je trouve, de sa part. Puis en plus,
on l'a pas beaucoup vu, c'est vrai.
Puis il se fait dépasser par Pierre Gasly, donc.
Non, c'est vrai.
Et puis Leclerc a été malchanceux parce que je pense qu'il y a eu un contact avec. Je me souviens plus, c'était avec Norris en début d'épreuve.
Oui.
Oui, donc ça aussi, ça a affecté sa course et ce qui a fait en sorte que l'écurie a dû forcer à le retirer pour éviter tout autre dégât. Donc c'est dommage quand même pour Ferrari du côté de Leclerc. Sinon, est-ce qu'il y avait une autre écurie qui méritait?
McLaren, je veux que tu me parles de McLaren, absolument.
Oh.
Parce que Norris part en deuxième, Piastri part 8. Le résultat, c'est Norris 7, Piastri 9.
Erreur de stratégie.
Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfer.
Ça a été une erreur de stratégie véritable. Vraiment, ouais. Là. Parce qu'en course, Norris et Piastri ont été en mesure de...
C'était très décent.
C'était très décent. Ils ont été en mesure de gagner beaucoup plus de positions. Le plus de positions
possible.
Si Rivo
s'arrête, tu t'arrêtes.
C'est ça. Et malheureusement, ça a été assez difficile. Ça a été
sous la pluie, là. Ouais. Tu n'essaies pas de jouer une espèce de undercut, overcut sous la pluie, là. Tu t'arrêtes.
Ouais. Exact. Puis j'ai l'impression que... J'ai comme un peu l'impression que Norris a fait la même erreur qu'en Russie 2021. Côté ouais. Décision...
Ouais. Et c'est drôle parce que ce que tu dis, parce qu'avant le Grand Prix, côté décision, on laisse au pilote choisir et puis c'est pas le mur qui décide, c'est le pilote qui choisit. Et c'est drôle ce que tu dis ça parce qu'avant le Grand Prix, on parle avec Zach Brown sur Sky Sports puis on lui demande qu'est-ce que tu penses de la stratégie d'aujourd'hui, qui va contrôler qui. Il dit personne peut contrôler, là c'est Zach Brown qui parle, il dit personne contrôle Lando Norris, c'est lui qui va décider.
Un peu comme Alex Palou a décidé de se retirer de McLaren pour 2024 en IndyCar.
Ouch! 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 Mais pour Norris, revenons à Norris,
ouais.
C'est l'équipe qui aurait dû dire, il pleut, on rentre.
Ouais.
Tu ne vois pas le radar, moi je le vois le radar là, faut que tu rentres.
Oui, oui, puis en plus on le voyait, et en plus on le voyait aussi là, sur le premier tour qu'il pleuvait là, donc...
Ouais. Parce qu'à la relance au 16e, Norris est 11e. À la relance au 64e, il est 7e.
Ouais.
Il termine 7e.
Et je veux donner aussi une mention honorable à Zhou Guanyu. Parce que avant son accident qui a causé le drapeau rouge, Zhou était, je pense, deuxième ou troisième à un certain moment.
À un certain moment, au 16e tour, après l'accident de Sargent, il était 6e.
Ah oui. Non, il faisait bien, il maintenait sa position. Évidemment, je pense que avec la voiture qui est là, il ne pouvait rien faire face aux autres. Mais je pense que c'était une bonne course dans les circonstances. Ouais.
Malheureusement, au 7e tour, oui. Zhou était 2e.
Exact. Donc c'était le plus haut qu'il a été en Formule 1.
Ouais.
Et ça a été vraiment une bonne stratégie de la part d'Alfa Romeo de l'avoir faire entrer ouais. maintenant.
Ouais.
C'est juste dommage que ça se soit terminé avec de l'aquaplanage au premier tour et ça a été assez dur quand même.
Oui, il a tapé le mur assez durement. Bottas aussi a failli taper le mur aussi, hein, quelques
oui.
secondes après. Là.
Oui.
Zhou a vraiment du talent. Oui, il amène beaucoup d'argent, mais il a vraiment du talent. Il mérite juste une meilleure voiture.
Oui, oui. Exact.
Il commence à battre aussi Bottas à la régulière en qualif.
Oui, exact. Ce qui n'était pas le cas l'année dernière, puis on sait à quel point Bottas est super bon sur un tour lancé.
Oui.
Donc, je pense que Zhou Guanyu a vraiment élevé son...
Il mérite beaucoup mieux qu'une Alfa Romeo.
Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Un peu plus, ouais. Et je crois que vraiment la Alfa Romeo l'a laissé tomber à plusieurs reprises aussi. Il avait montré de bons trucs aussi. Ben, Grand Prix de Hongrie aussi, qui était.
C'est vrai.
Il a raté son départ. Il a raté ouais. son départ, mais le week-end a été très bon pour Alfa Romeo. Aujourd'hui, c'est, les circonstances, ils ont placé les pions au bon endroit. Donc, ensuite, c'était juste une question de survie du côté de Zhou Guanyu. Bottas un peu plus en retrait aussi, ce qui est dommage. Mais c'est un peu l'histoire d'Alfa Romeo cette saison aussi.
Ouais, c'est dommage parce que la semaine prochaine, on les verra pas du tout.
Ouch! Ouais, ça risque d'être, pas mal.
Ils vont être loin.
Puis, on va compléter avec Haas. D'ailleurs...
Magnussen, c'est dangereux ce qu'il a fait.
Ah oui, hein?
C'est pas un drapeau blanc et noir qui méritait. C'est une pénalité.
Ouais. C'était...
La manœuvre sur Albon, là, changer d'endroit sur la piste au freinage, au virage numéro 1, au 22e tour, super dangereux.
Oui. Moi, je pense que ça aurait dû être une pénalité de 5 secondes. Mais de toute façon, le karma risque de le frapper puisqu'il est sous enquête pour ne pas... Pour sa procédure de relance, apparemment, il était à plus de 10 longueurs de voiture.
Oui, il était souvent très loin. Parce que avant la reprise finale, je voulais me copier le classement. Et sur mon application, je suis allé voir le positionnement en piste. Et à plusieurs reprises, Magnussen, qui était dernier, était très, très loin des autres voitures. Facilement 15-20 longueurs.
Ouais. Donc, je crois que... Donc, je crois effectivement que ça a été énormément compliqué pour
Magnussen. C'est quoi comme pénalité pour ça? C'est 10 secondes?
Je pense que ça doit être 5 ou 10 secondes de pénalité à peu près, là.
Ouais, donc il va finir dernier.
Ouais. Puis de toute façon...
À ce niveau-là, ça ne change rien. Hülkenberg course complètement anonyme.
Ouais, ouais. Mais ça, c'est vraiment en lien avec la voiture qui est juste pas capable de suivre en course. En qualification, ça va. En course, c'est une autre histoire. Donc...
Non. Cette voiture-là, on les a pas vues à part pour la situation très, très dangereuse qu'on a vue en direct, en plus, sur Albon. Oui. Non, ça c'était vraiment chose à ne pas faire, là. Il y en avait un drette là.
Exactement. Donc, je crois que ça a été vraiment il a été vraiment, vraiment chanceux de s'en tirer avec juste une tape sur les doigts, là.
Oh oui, ça aurait pu être pire.
Oui. Donc, voilà, c'est ce qui complète, en fait, le retour du... le retour aux vacances. Et évidemment, c'était à l'improviste, vu qu'on a enregistré directement au tombé du drapeau à damier. Donc, je vais vous donner en même temps le classement des pilotes. Max Verstappen est premier avec 339 points. Sergio Perez est deuxième avec 201 points. Fernando Alonso est troisième avec 168 points. Lewis Hamilton, quatrième avec 156 points. Carlos Sainz, cinquième avec 102 points. Charles Leclerc reste avec... En fait, Leclerc et Russell sont à égalité avec 99 points. Lando Norris est à 75. Lance Stroll est à 47. Mais il doit faire attention puisque Pierre Gasly, avec ses 15 points, est maintenant dixième avec 37 points. Donc, fais attention, Lance.
Je donne le constructeur?
Oui, vas-y.
Alors, Red Bull Racing, 540 points. 540 points.
Wow.
C'est monstrueux. Mercedes est maintenant deuxième avec 255. Enfin, toujours deuxième avec 255 points. Donc, t'imagines l'avance qui est complètement dingue. Il y a 285 points d'avance. Il y a 285 points d'avance.
C'est incroyable.
En troisième position, c'est Aston Martin avec 215. Ferrari est quatrième avec 201. En cinquième position, McLaren 111. Alpine sixième avec 73 points. Est-ce qu'il manque trop de points d'ici? Est-ce qu'il n'y a pas assez de courses pour qu'Alpine puisse remonter McLaren?
Ah, il leur faudrait que McLaren se
plante un peu.
Se plante. Et qu'ils fassent une course, que les deux pilotes fassent une course remarquable. Puis on l'a vu aussi qu'ils sont capables.
Ouais. Septième position, Williams avec 15 points. C'est eux qui vont devoir défendre la septième position parce qu'il est impossible de pouvoir remonter à la sixième. Donc il y a vraiment un effort à faire. Huitième, Haas avec 11. Neuvième, Alfa Romeo avec 9. Et finalement, les trois petits points de Yuki Tsunoda, 3 points pour AlphaTauri.
Exact. Donc, et la semaine prochaine, c'est.
Il Formula 1 Pirelli Gran Primo d'Italia à Monza.
Exact. Donc, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP, l'émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix des Pays-Bas. Le party est présentement pogné à Zandvoort malgré le temps nuageux et je ne sais pas s'il pleut. Mais...
Il est pogné solide. On le sait, là, il est pogné solide.
Eh oui. Et en plus, il y a Martin.
Ça donne envie d'y aller. Hein.
Ah oui, puis en plus, il y a Martin Garrix qui est là. Donc, je l'ai vu quand il était à Montréal après le Grand Prix du Canada. Puis il est vraiment bon. Donc, je crois que ça va l'être encore plus à Zandvoort. Donc, on est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et autres. Et évidemment, on est sur Facebook, Twitter, même si c'est X. Instagram et Threads. Et on vous invite en plus à rejoindre le groupe Facebook La Monoplace où vous pouvez parler de Formule 1 à n'importe quel moment. Donc, on se retrouve possiblement, ça reste à confirmer jeudi pour l'épisode hebdomadaire, mais il y a une certitude, on se revoit dimanche prochain pour le Grand Prix d'Italie à Monza. Espérons-le un peu moins à l'improviste. Donc, Jean-Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là.
Un plaisir. A presto, comme on dit.
Et oui, en plus, je ne sais pas si tu vas être présent la semaine prochaine, mais...
Il y a des chances.
Il y a des chances.
Il y a des chances, puis je vais essayer de sortir mon italien.
Et voilà. Donc, ça va être un épisode franco-italien. Donc, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve une prochaine fois. Ciao a tutti!